Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi de août 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal et un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran commence l'injection du gaz dans ses nouvelles centrifugeuses. Les forces armées syriennes ont commémoré le 77e anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne. Un défilé militaire marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, a annoncé lundi 1er août que son organisation avait reçu l'ordre de mettre en marche et d'injecter du gaz dans des centaines de nouvelles centrifugeuses, y compris des machines IR-1 et des machines avancées IR-6. Behrouz Kamalvandi a déclaré que cette décision était conforme aux stipulations d'une nouvelle loi stratégique visant à faire lever les sanctions pesant sur l'Iran et à sauvegarder les intérêts de la nation iranienne. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a déjà été informée de cette décision, a noté le responsable iranien. En juillet 2015, l'Iran a signé avec les principales puissances mondiales, dont les États-Unis, un accord sur le nucléaire, officiellement connu sous le nom du Plan Global d'Action Conjoint. En vertu de cet accord, Téhéran a accepté de freiner son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions visant le pays. Cependant, l'ancien président américain Donald Trump a fait sortir les États-Unis de l'accord en mai 2018 et a réimposé des sanctions unilatérales à l'encontre de l'Iran, incitant ce dernier à renoncer à certains de ses engagements pris dans le cadre du pacte. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré lundi que l'Iran examinait la nouvelle proposition présentée par le coordinateur de l'Union européenne pour la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire. Nous avons annoncé notre volonté afin qu'au moment désigné, les délégations de l'Iran et du groupe P4+1, avec une implication indirecte des États-Unis, puissent poursuivre les discussions à Vienne sur les détails d'un éventuel accord, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne en référence aux négociations en cours à Vienne. Le ministère iranien des Affaires étrangères est préoccupé par les droits de la nation iranienne, a déclaré M. Amir Abdollahian, ajoutant que les lignes rouges de l'Iran devraient être pleinement prises en compte dans l'accord à venir. Je souhaite souligner que nous sommes sérieux dans notre intention de parvenir à un accord solide, bon et stable, et que si la partie américaine est réaliste et a la flexibilité nécessaire dans les possibles négociations, parvenir à un accord ne sera pas très difficile, a-t-il observé. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne et coordinateur de la commission mixte du plan d'action globale conjoint, Joseph Borrell, a récemment soumis aux parties à la négociation une proposition dans un effort pour sortir de l'impasse, les pourparlers sur le nucléaire organisés à Vienne. Une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais avoir lieu, a déclaré lundi 1er août le président russe Vladimir Poutine. Nous sommes en faveur d'une sécurité égale et indivisible pour tous les membres de la communauté mondiale, a-t-il affirmé dans un message de salutation délivré à l'ouverture de la 10e conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. En tant que partie au TNP, et un de ses dépositaires, la Russie a toujours respecté ce pacte et a rempli toutes les obligations stipulées par les accords bilatéraux signés avec les États-Unis sur la réduction et la limitation des armes concernées, a-t-il aussi souligné. La Russie espère que cette conférence apportera une contribution significative au renforcement du régime de non-prolifération nucléaire afin de garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, a ajouté le président russe. En Syrie, les forces armées intrépides ont commémoré le lundi 1er août le 77e anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne en faisant des parades militaires et sportives dans les formations, les académies et les établissements pédagogiques. Dans des allocutions qu'ils ont prononcées à cette occasion, les commandants ont assuré que l'anniversaire de la journée de l'armée constitue une stimulation pour consentir davantage de sacrifices pour défendre la patrie. En outre, les commandants des zones militaires ont visité les cimetières des martyrs et ont posé au nom du président Bachar al-Assad, commandant en chef de l'armée et des forces armées, des couronnes de fleurs sur les monuments commémoratifs. Mise en place à l'occasion du mois sacré de Ramadan en avril et prolongée de 2 mois, la trêve au Yémen prend fin ce mardi 2 août, alors que les analystes se sont penchés sur les conditions d'un Sarala pour la poursuite de la trêve et ses préconditions pour l'instauration d'une paix durable. À cet égard, le chef de la Fondation de reconstruction du Yémen, Mohamed Reza Sayed Mohamed, affirme que les Saoudiens et les Émiratis ne respectent pas leurs engagements dans le cadre de l'accord de paix sur le port de Daïda, alors que l'actuelle trêve reste fragile en raison des actions de la coalition dirigée par Riyad. Selon l'expert yéménite, l'aéroport de Sanaa et le port de Daïda devront être entièrement ouverts et les fonctionnaires doivent être payés par le biais des revenus du pétrole brut, sans quoi la prolongation de la trêve n'aura aucun sens. Le secrétaire exécutif de la fondation, Ovais Rarani, estime lui aussi que sur fond de l'augmentation du nombre de malades, les demandes d'un Sarala sur la levée du siège et l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux yéménites sont considérées comme légitimes pour le maintien de la trêve et la mise en œuvre de tout accord de paix. Alors qu'il est, fait-il remarquer, seulement 10 vols sont effectués depuis l'aéroport de Sanaa contre 50 prévus dans l'accord. Ce qui met en cause la crédibilité de l'accord et montre le désengagement dont font preuve les Saoudiens et les Émiratis. Refusant de renoncer aux frappes contre le territoire saoudien, Ansarallah cherche, selon lui, un accord gagnant-gagnant qui permettrait non seulement aux citoyens saoudiens, mais aussi aux Yéménites de vivre en paix. Si l'Arabie saoudite, ajoute-t-il, est revenue sur ses positions et a accepté la trêve, c'est qu'elle a subi de lourds coups militaires suite aux opérations d'Ansarallah contre les sites du géant pétrolier saoudien Aramco à Najran, Jeddah, Riyad et Jizan. Les Béninois ont célébré le lundi 1er août à Cotonou, capitale économique du Bénin, le 62e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance, en présence du président Patrice Talon. Dans la matinée de cette célébration, le président a procédé au dépôt de gerbes au monument aux dévoués, érigé dans les jardins de Mathieu, au cœur de la métropole béninoise, pour saluer la mémoire des enfants du Bénin morts pour la patrie. Ce défilé a été marqué par deux temps forts. L'un est le défilé militaire pédestre exécuté par les différents détachements représentatifs de chacune des composantes des forces de défense et de sécurité et l'autre, un défilé motorisé exclusivement consacré à l'exhibition d'un échantillon de matériel et équipement des forces armées béninoises. Les pays concernés par le gazoduc Nigeria-Maroc connaîtront un essor économique important. La construction du gazoduc Nigeria-Maroc est en cours et tout indique que ce projet aura des conséquences très positives. Younes Mamar, un expert marocain en énergie et en développement, estime que le gazoduc sera bénéfique à tous égards. Mamar affirme que le gazoduc sera principalement positif dans les pays qu'il traversera. Ces nations verront leur économie s'améliorer et par conséquent, leurs attentes économiques croîtront et entraîneront une amélioration du niveau de vie de leurs citoyens. Il convient de rappeler que le gazoduc traversera le Bénin, le Ghana, le Togo, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que le Nigeria et le Maroc, où il commence et termine son parcours. Enfin, le gaz sera transporté du pays alouite vers l'Espagne. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le plan global d'action conjoint est mort. Certains observateurs estiment que bientôt la partie américaine annoncera unilatéralement l'échec des négociations sous prétexte de l'absence de toute bonne volonté de la part de Téhéran. Le temps presse pour les dirigeants démocrates des États-Unis. À l'approche des élections demi-mandat du Congrès, la Maison-Blanche préfère se débarrasser du dossier nucléaire iranien en accusant les Européens d'être responsables de l'échec des pourparlers avec l'Iran. Les commentateurs estiment qu'après l'annonce unilatérale de la fin des négociations par Washington, les trois partenaires européens, Grande-Bretagne, France et Allemagne, et l'Union européenne essayeront de fixer une nouvelle date pour la reprise des pourparlers en s'appuyant sur l'initiative proposée par l'Espagnol Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Rappelez que l'Iran a été la seule partie qui s'est opposée jusqu'à présent à cette initiative. Les Américains tenteront à leur tour de faire d'une pierre deux coups. Ils savent que les Iraniens sont opposés au plan de Josep Borrell. L'opposition iranienne leur facilitera de suggérer que Téhéran est responsable de l'échec des pourparlers. Dans le même temps, l'Amérique pourra blâmer les Européens pour la défaite de leur initiative. Washington veut ainsi faire pression sur Téhéran et l'obliger à accepter les propositions occidentales. Dans ce scénario, c'est l'Iran qui, au bout du compte, devrait accepter ou rejeter ses propositions. Si Téhéran les rejette, l'Amérique poussera les Européens à activer le mécanisme automatique du retour aux sanctions de l'ONU contre la République islamique d'Iran. Or, contrairement aux calculs de Washington, depuis près d'un an, la République islamique d'Iran est arrivée à un stade qu'il peut entièrement se passer de la conclusion d'un accord sur son nucléaire civil. Les analystes estiment que le gouvernement du président Ebrahim Raisi a franchi cette étape stratégique de se passer d'un accord de plus en plus improbable avec les parties occidentales. Certes, outre les évolutions intérieures de l'Iran, le contexte international a permis au gouvernement du président Raisi d'avoir son mot à dire tant sur la guerre en Ukraine que les récentes évolutions à Téhéran. Forbes a écrit sur son site que l'Iran commence à apprendre aux Russes comment se servir des drones kamikazes. La revue américaine rappelle aussi que l'Iran est devenu ces dernières années un grand fabricant de divers types de drones de haute technologie. Par ailleurs, le journal New York Times a souligné que la République islamique d'Iran a trouvé de nouveaux marchés à l'extérieur du Moyen-Orient pour ses drones et qu'elle devient un acteur important dans la fabrication et l'exportation des avions sans pilote. L'Iran change le modèle de la guerre car il n'a plus besoin d'avions de combat extrêmement coûteux et s'appuie désormais sur ses drones pour devenir maître du ciel. Aujourd'hui, les analystes soulignent que la République islamique d'Iran s'affirme de plus en plus comme un acteur incontournable, tant sur le plan régional qu'international. Dans une telle situation, les plans anti-iraniens pourront coûter très cher à leurs auteurs et se retourner contre eux-mêmes.
Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous regarder l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, la Tunisie, qui revendique sa souveraineté et son indépendance de ses décisions, refuse naturellement qu'on mette en doute ses efforts pour rétablir la stabilité et le processus démocratique. Néanmoins, les États-Unis n'ont pas hésité de s'ingérer dans les affaires intérieures de ce pays après donc, le référendum approuvé à 95%, même si le taux de participation était relativement faible. C'était un référendum sur la nouvelle constitution. Alors, les États-Unis disent que ce référendum compromet la protection des droits humains et la liberté fondamentale. Alors que le gouvernement tunisien n'a pas hésité de convoquer la chargée des affaires de l'ambassade américaine à Tunis, et cette dernière n'a su répondre, bien sûr. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Quelle mouche a piqué les Amerlocs pour changer si radicalement de discours, de fouler aux pieds toute essence diplomatique, de s'ingérer si radicalement dans les affaires intérieures de la Tunisie et se croit autorisé à dénoncer le résultat du référendum constitutionnel? Côté tunisien, la réaction a été d'ailleurs immédiate. La charge d'affaires américaine a été convoquée vendredi par la diplomatie tunisienne qui a dénoncé une ingérence et des déclarations inacceptables de responsables américains ayant critiqué cette semaine le référendum sur la constitution tenue lundi et l'évolution politique du pays. Natacha Franceschi, qui fait office de principale responsable de l'ambassade, a dû se rendre au siège du ministère des Affaires étrangères après le communiqué du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, d'Anthony Blinken, sur le processus politique en Tunisie et après les déclarations inacceptables de l'ambassadeur américain désigné en Tunisie, jeudi août, selon un communiqué du ministère tunisien. Le ministre tunisien, Othman Jarandi, a dénoncé dans le communiqué une ingérence inacceptable dans les affaires nationales intérieures et exprimé la stupéfaction tunisienne après ses déclarations et le communiqué, qui ne reflète pas du tout la réalité de la situation en Tunisie. Quelques heures auparavant, le ministre Jarandi avait rencontré le président Kais Saied, qui lui avait exprimé son rejet de toute forme d'interférence dans les affaires internes du pays, soulignant que la souveraineté de la Tunisie et son indépendance sont au-dessus de tout. Plus d'un analyste verrait à travers cette campagne d'ingérence éhontée dans les affaires intérieures de l'État les plus endettés du monde, et ce à la faveur d'une décennie de gouvernance des printaniers arabes, un chantage destiné à forcer la main de Saïd et à lui faire accepter la normalisation. Mais cette histoire de normalisation, les Yankees devraient, à l'heure qu'il est, avoir bien compris que cela ne marcherait jamais aux Maghrébins, et que même au Maroc, elle n'est qu'une squelette sans âme, le signe étant que les Américains en sont désormais à la recherche d'un autre pays que le Maroc pour organiser African Lion 2023.
Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour. Bonjour, M. Luc Michel. Malheureusement, votre son...
Oui, bonjour.
Oui? Comment allez-vous? Bien, un grand bonjour à M. Emadeddine Hamrouni, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. M. Hamrouni, bonjour. Ahmad Rami, vous pouvez m'excuser. M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Stockholm, Suède. M. Ahmad Rami, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Un plaisir de vous accueillir sur le plateau du débat.
Merci.
Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, pourquoi la Tunisie est très en colère après les ingérences radicales des États-Unis dans les affaires intérieures de ce pays?
Alors, c'est à moi la question.
C'est à M. Luc Michel. Et bon, malheureusement, le son avec M. Luc Michel n'est pas très bon. Je vais m'adresser à vous, M. Ahmad Rami. Alors, les ingérences des États-Unis dans les affaires intérieures de la Tunisie, pourquoi cette grande colère de la part du gouvernement tunisien?
Oui, en fait, les États-Unis, ou bien le gouvernement des États-Unis, ne fait que divulguer et révéler son vrai visage, parce que quand il se mêle, il s'ingère dans les affaires intérieures de la Tunisie, il divulgue que, en même temps, par exemple, quand il s'agit de l'entité sioniste et de tout ce qu'il fait sous l'occupation, ou bien quand il s'agit aussi du régime marocain, le système politique marocain, ou du système politique, sioniste saoudien, qui est la dictature la plus farouche du monde, les États-Unis n'utilisent pas ces arguments qu'ils utilisent avec la Tunisie maintenant, par exemple. Donc, quand les États-Unis, le gouvernement des États-Unis s'ingère dans les affaires d'un pays, c'est seulement dans le cadre de services qu'il rend à l'entité sioniste, à l'occupation sioniste. Parce que la Tunisie, aujourd'hui, n'a pas marché dans ce qu'on appelle la normalisation, entre guillemets, entre Israël et les pays arabes. Donc c'est pourtant l'entité sioniste qui en réalité occupe et dirige la politique extérieure des États-Unis, c'est-à-dire Israël qui dirige la politique extérieure des États-Unis, réagit contre le régime tunisien. Donc c'est seulement dans ce cadre, c'est-à-dire qu'en fait, Anthony Blinken lui-même, qui est secrétaire d'État, ça veut dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, lui-même, c'est un sioniste d'origine ukrainienne, lui-même. Et donc, tous les responsables, les grands responsables qui décident la politique des États-Unis, ce sont des sionistes, et c'est le lobby juif israélien qui décide la politique extérieure des États-Unis et même la politique intérieure. Donc, les États-Unis, le gouvernement des États-Unis n'a pas de leçon à donner à la Tunisie, ni à l'Iran, ni à la Syrie, ni au Yémen, ni à tous les pays qui essayent, au contraire, de garder leur indépendance.
Absolument.
Face à l'occupation sioniste et à la domination politique sioniste.
D'accord. Merci, M. Ahmad Rami. Restez avec nous. Nous avons naturellement d'autres questions à vous poser. À présent, je m'adresse à M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Oui, bonjour. J'espère que les dieux de la technique seront enfin avec nous.
Oui, d'accord. Monsieur Luc Michel, après le référendum sur la nouvelle constitution en Tunisie, approuvé à 95% malgré le fait que le taux de participation était relativement faible, tout de même, les États-Unis étaient le seul pays à s'ingérer dans cette affaire en disant que ce référendum compromettait la protection des droits humains. Que pensez-vous?
C'est tout à fait normal, puisque le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye, c'est le centre de l'implantation américaine en Afrique. C'est de là que l'Afrique comme l'OTAN se répandent dans tout le continent. Lorsque Obama a lancé le soi-disant printemps arabe en 2011, il a eu pour première cible, pour premier pays visé, la Tunisie. À l'époque, on se souvient des déclarations de la ministre française Alliot-Marie. Elle a déclaré qu'en Tunisie, les Américains avaient toutes les clés en main, qui contrôlaient tout. Au bout, maintenant, de 12 ans de soi-disant printemps arabe, le Maghreb et la Tunisie en particulier sont en train d'échapper des mains américaines. Ce qui intéressait les Américains, c'était d'implanter des bases secrètes de l'US Army contre l'Algérie et contre la Libye. Mais aujourd'hui, évidemment, la Tunisie se détourne. Le département d'État vendredi a donc émis un communiqué où il annonce que la Tunisie est une dictature en marche et sa sympathie pour ce qu'il appelle la société civile tunisienne, c'est-à-dire les réseaux de George Soros et compagnie. C'est un phénomène général qui concerne tout le Maghreb. Il y avait un grand article dans l'hebdomadaire parisien Le Point cette semaine. Il s'intitule « Maghreb bon baiser de Russie ». Il explique comment l'Algérie, mais aussi la Tunisie, mais aussi le Maroc, sont en train de basculer du côté de la Russie, en particulier au niveau de leur opinion publique. Cela explique la colère des Américains. Moi, je ne pense pas que l'implantation américaine s'explique par son soutien à Israël qui est avéré, mais tout simplement parce que c'est un objectif fondamental de la géopolitique américaine. Quand on sait particulièrement que le Maroc a reçu il y a quelques années le statut d'allié privilégié de l'OTAN, qui en fait quasiment un état de l'Alliance Atlantique.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Ahmad Rami, qui est avec nous, notre invité, donc, qui a dit que la Tunisie a dit clairement non à la normalisation des relations entre la Tunisie et Tel Aviv. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une fatigue des États du Maghreb et en particulier des populations par les promesses qui n'ont pas été tenues du soi-disant printemps arabe, qui s'est en fait révélé être un hiver glaciaire pour tous les peuples de l'Afrique du Nord jusqu'au Proche-Orient, mais également les populations, évidemment, n'ont pas supporté la politique de Trump et du roi du Maroc qu'on a tenté d'imposer dans tout le Maghreb et qui est le rapprochement avec Israël. Il ne faut pas oublier que ce sont des populations qui ont une sympathie profonde pour la cause palestinienne et la cause arabe et donc évidemment que vouloir les placer de force aux côtés des sionistes et de l'impérialisme américain, évidemment c'est quelque chose qui ne passe pas.
Oui, absolument. Monsieur Ahmad Rami, donc la réaction du gouvernement tunisien était très, très rapide et même très choquante, convoquant la chargée des affaires de l'ambassade américaine à Tunis. Cette dernière n'a su répondre. Que pensez-vous?
Oui, il faut savoir que c'est un principe international bien connu que les affaires politiques sont gérées à l'intérieur dans chaque pays. Et officiellement, ils s'ingèrent dans les affaires américaines diplomatiquement pour juger de la bonne conduite de la démocratie américaine à l'intérieur. C'est le peuple américain qui doit s'occuper de ça et décider. C'est la même chose en Tunisie. Ce n'est pas les États-Unis qui vont gérer ou qui vont juger ce qui se passe en Tunisie, c'est le peuple tunisien. Donc les États-Unis, normalement, n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires internes de la Tunisie. La Tunisie a le droit de protester et de s'indigner face à cette ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie. Mais il faut aussi savoir que même le soutien que les États-Unis maintenant, donne à Israël, à l'entité sioniste, ce n'est pas dans l'intérêt dans les intérêts même des États-Unis, parce que il était beaucoup plus des intérêts des États-Unis de soutenir les causes justes dans le monde. Et la cause palestinienne, aujourd'hui, pour tout le monde, est une cause centrale, mondiale. Et c'est une cause de tous les pays, de tous les peuples, de toutes les nations, et qu'il est de l'intérêt des États-Unis de soutenir la justice en Palestine. Hein. Et s'allier en réalité, soutenir la République islamique d'Iran est beaucoup plus dans l'intérêt stratégique que d'une occupation injuste, scandaleuse, qu'est l'occupation sioniste. Donc, il n'est pas dans l'intérêt, en réalité, géopolitique des États-Unis de soutenir l'entité sioniste. Et au contraire, il faut soutenir la justice, même au Moyen-Orient. Mais Mais si on voulait se mêler donc, dans les affaires intérieures des États-Unis, c'est Israël qui se mêle dans les affaires intérieures des États-Unis. Il y a un lobby sioniste israélien aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, qui se mêle des affaires de l'intérieur des États-Unis, mais il n'y a aucun lobby américain à l'intérieur d'Israël qui s'ingère dans les affaires israéliennes, au contraire. Donc c'est Israël qui domine et qui occupe aujourd'hui les États-Unis. Donc les États-Unis, en réalité, c'est un scandale qui se mêle des affaires internes de la Tunisie alors qu'il ne se mêle pas des affaires intérieures dans l'occupation sioniste. Voilà.
Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Moi, je ne partage pas du tout cette opinion, parce que la géopolitique internationale n'a rien à voir avec la justice et les causes justes. Je suis un soutien de toujours de la cause palestinienne, mais les Palestiniens sont du côté des pays qui combattent l'impérialisme et la colonisation. Les Américains, depuis les débuts du 19e siècle, ils sont du côté du colonialisme et de l'exploitation. Le Che Guevara disait que l'impérialisme avait une tête, c'est les États-Unis, et qu'il fallait la couper. Je pense au contraire qu'il y a une osmose profonde des intérêts entre le sionisme et les États-Unis pour exploiter la planète. Ce qui se passe actuellement, c'est que les États-Unis n'ont pas compris que le cycle qu'on a appelé le nouvel ordre mondial, qui s'est établi à la chute de l'Union soviétique jusqu'en 2015, est terminé. Pendant ce temps-là, l'Amérique dictait sa volonté, sa loi au monde. Les États-Unis dominaient par la peur et dominaient par la brutalité. Depuis 2015-2007, les Russes sont revenus dans le jeu mondial. C'est un nouveau jeu géopolitique, évidemment, et les peuples n'ont plus peur des États-Unis. C'est ce qui se passe actuellement dans les réactions d'ailleurs face à la crise ukrainienne. Il est bien certain que les Américains, dans leur politique au Maghreb, mais aussi dans leur politique avec Israël au Proche-Orient, ils défendent leur intérêt. Israël est un porte-avions américain qui permet la projection américaine, comme le fait également un autre État, la Turquie, la projection géopolitique américaine sur le Proche-Orient. C'est une époque, malheureusement, qui se termine. Aujourd'hui, la puissance qui a la main au Proche-Orient, ce ne sont plus les Américains, ce sont les Russes et leurs alliés iraniens.
Monsieur Luc Michel, ce n'est pas seulement en Tunisie, car la Tunisie qui revendique sa souveraineté et son indépendance dans ses décisions et refuse catégoriquement donc qu'on mette en doute donc ses efforts pour rétablir la stabilité et le processus démocratique de ce pays. Donc, les autres pays, on a vu dans d'autres missions comme le Mali ou le Burkina Faso ou bien d'autres pays, même des pays européens, de n'avoir pas peur donc de ce géant, de cette grande puissance qui est les États-Unis, car ils se sentent plus seuls. Ils ont la Russie derrière eux, c'est ce que vous dites?
Oui, tout à fait. Il faut constater que les Américains ont sapé eux-mêmes les bases de leur valeur mondiale. En lançant la guerre en Ukraine et la guerre des sanctions contre la Russie, ils ont contribué à la dédollarisation du monde et à souder un front international qui passe par le Proche-Orient, qui passe par l'Eurasie, qui passe par l'Amérique latine, contre la domination américaine. Les Américains n'ont pas compris ce changement de paradigme de la géopolitique mondiale. Et évidemment, ils réagissent toujours avec la brutalité des années 90. J'ai lu leur communiqué sur la Tunisie. C'est un communiqué injuste et insultant pour les affaires intérieures de la Tunisie. Et c'est normal que, à la fois les élites tunisiennes gouvernementales, mais aussi le peuple tunisien, c'est normal qu'ils réagissent avec animosité à cette brutalité américaine, évidemment. Les Américains sont en train de détruire eux-mêmes les bases de l'organisation mondiale. Ce qui se fait dans le monde entier, mais en particulier en Afrique, au Sahel, en Afrique du Nord, ce qui se fait au Proche-Orient, ça va finir dans les mois qui vont suivre avec la crise économique par gagner l'Europe. Il y a déjà des manifestations anti-américaines en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. D'autres pays s'apprêtent à suivre, malgré la trahison des élites atlantistes européennes.
Ahmad Rami, votre prise de position à cet égard?
Oui, c'est Israël qui possède un lobby grand, puissant à l'intérieur des États-Unis, qui domine les États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun lobby en Israël et ne dominent pas Israël. Donc c'est les États-Unis qui sont une porte-avions, une base militaire d'Israël, qui utilise les États-Unis pour... Les États-Unis n'ont jamais gagné. C'est-à-dire que les civils n'ont jamais gagné une guerre. C'est toujours, ils utilisent toujours les autres nations faire leur guerre. Ils ont utilisé, par exemple, les États-Unis pour détruire l'Allemagne. Et maintenant, ils veulent utiliser les États-Unis pour détruire la Palestine, pour détruire l'Iran, pour détruire tous les pays qui s'opposent à Israël. Mais Israël elle-même ne mène pas cette guerre. C'est-à-dire, en réalité... C'est le Israël qui domine les États-Unis. Les États-Unis ne dominent pas Israël. Tout le monde le sait, tout le monde sont d'accord que c'est le lobby sioniste, et pas que le lobby juif qu'on appelle sioniste israélien, qui domine la politique des États-Unis. Aucun candidat à la présidence des États-Unis ne peut devenir président s'il n'est pas accepté par le lobby sioniste qui gouverne les États-Unis. Donc en réalité, c'est Israël qui décide la politique des États-Unis, la politique extérieure des États-Unis. Donc à mon avis, c'est le par exemple, comme j'ai dit maintenant, l'Iran ne constitue pas une menace contre les États-Unis. Tout le monde le sait. Hein. Israël a plus de 200 bombes atomiques. La République islamique d'Iran n'est pas un ennemi. Ne constitue pas une menace contre les États-Unis. Mais maintenant, les États-Unis se mobilisent contre la République islamique d'Iran parce que c'est Israël qui décide la politique des États-Unis, qui va être combattue ou qui ne va pas être combattue. Et maintenant, la réaction des États-Unis au gouvernement tunisien actuel, c'est que le gouvernement tunisien actuel a refusé de suivre qu'on appelle la politique de normalisation avec Israël, c'est-à-dire d'accepter la domination, l'occupation sioniste de la Palestine. C'est tout. Donc c'est une guerre d'Israël qui est menée par les États-Unis, le gouvernement des États-Unis. Voilà.
Oui, mais M. Luc Michel a dit que la politique russe a changé la donne et les pays tels que la Tunisie n'ont plus peur donc de dire non justement à cette normalisation. Que pensez-vous, M. Ahmad Rami?
Oui, alors il y a même à l'intérieur de toutes les grandes puissances, de tous les pays, qu'en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout, c'est le lobby sioniste qui gouverne. Et aussi, même en Russie, Poutine est un ami d'Israël, un grand ami d'Israël jusqu'à présent en réalité. C'est-à-dire les États-Unis manipulent même la politique extérieure et l'Ukraine, le président de l'Ukraine, c'est un sioniste, ami d'Israël. Hein? Donc ces guerres-là maintenant déclenchées là-bas, ce sont des guerres pour détruire aussi bien l'Ukraine que détruire la Russie. Donc c'est une guerre pour de la destruction de ces pays-là. Parce que même dans la Deuxième Guerre mondiale, le seul vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Israël. C'est le lobby sioniste. Voilà.
Bien, M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Stockholm, en Suède. Merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien qui était avec nous depuis Bruxelles, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Kamaluddin Farsi a vécu à une époque où le monde musulman se débarrassait des croisades d'une part, était sur le point d'une invasion mongole d'autre part. Pourtant, l'une des périodes majeures de l'histoire de la science dans le monde musulman se produit à la même époque en Iran grâce à lui. La vie humaine ne peut être imaginée sans les deux éléments de l'eau et de la lumière. La vie sur Terre est possible grâce à l'existence de l'énergie du Soleil. C'est probablement pour cette raison que les astronomes ont toujours cherché des planètes comme la Terre où on pourrait découvrir des signes de vie en raison de la présence d'une étoile, d'autant plus qu'il est impossible d'imaginer des conditions propices à la vie sans la lumière, même s'il y a des ressources en eau. La lumière n'est que des ondes électromagnétiques techniquement parlant. Il s'agit des ondes qui se trouvent dans le spectre visible. En d'autres termes, la lumière est liée aux photons qui peuvent être détectés par le système visuel humain. Les photons en dehors du spectre visible ne sont pas de la lumière, bien que les termes du rayonnement ultraviolet et du rayonnement infrarouge soient souvent utilisés pour ces spectres. L'un des scientifiques iraniens qui a apporté une contribution majeure au développement de la théorie des nombres et de l'optique est Kamaluddin Farsi, celui dont les idées sur l'optique sont nées des interrogations qui s'opposaient sur la réflexion de la lumière, a passé de nombreuses années de sa vie à trouver des réponses à ces interrogations. Kamaluddin Farsi était un éminent physicien né en 1267 après Jésus-Christ et mort à Tabriz en 1319 après Jésus-Christ. Les travaux de ce scientifique iranien dans le domaine de l'optique sont très importants à l'origine de découvertes scientifiques après lui dans le monde entier. L'étude du livre de l'optique d'Ibn Hisham l'a aidé à accomplir ses acquis scientifiques et l'a conduit à rédiger son ouvrage riche, La révision du traité d'optique d'Ibn Hisham. Kamaluddin Farsi a voyagé dans différents pays pour enrichir ses connaissances. Il a étudié les mathématiques pendant une longue période à Isfahan, a rédigé son célèbre ouvrage dans ce domaine appelé La base des règles dans les principes d'utilisation. Il est l'élève du grand astronome et mathématicien Rotbeddin Shirazi, lui-même élève de Nasiruddin Tusi. Des astronomes renommés comme Imaduddin Kashani et Ghiyasuddin Jamshid Kashi l'ont mentionné comme un grand scientifique dans leurs ouvrages. Farsi a accordé une attention particulière à la perspective, en particulier à l'optique, et dans le domaine de la science des mathématiques, il a accordé une attention à la géométrie et au sujet des angles, a fait des recherches sur ce sujet. Le physicien iranien a été le premier scientifique à expliquer la théorie des erreurs de réfraction, a proposé l'utilisation de différentes lentilles pour résoudre ce problème. Cette théorie intéressante et unique a conduit à l'utilisation des lentilles dans les règles de la photographie, à la construction de télescopes et de microscopes au XIXe siècle.
la révision du traité d'optique d'Ibn Hisham et le livre focalisé sur la vision et l'optique est considéré comme l'un des ouvrages scientifiques les plus importants du monde musulman. Comme nous l'avons dit précédemment, le livre est une révision et un commentaire du livre de l'optique d'Ibn Hisham en 7 articles avec les mêmes titres. Dans ce 7 articles, Kamaluddin Farsi a abordé des sujets tels que la vision, la lumière, la perception, les erreurs de réfraction et la réfraction de la lumière. L'introduction du livre est la seule source principale de la biographie scientifique de l'auteur. En plus, elle est considérée comme un document fiable sur la façon de transmettre des travaux et des sujets scientifiques. En ce sens, cet ouvrage est très important. Dans l'introduction du livre, le scientifique musulman, tout en donnant une longue et précieuse description du début de ses recherches dans le domaine de l'optique, a clairement indiqué que les hypothèses erronées d'autres scientifiques, en particulier l'idée d'égalité de rayonnement, de réflexion, la souplesse et la pénétration, l'ont beaucoup étonné. Selon le contenu du livre, Farsi n'a pas accepté toutes les opinions d'Ibn Hisham, tout comme il a rejeté son opinion dans la discussion de la comparaison de l'accident et de la diffusion de lumière. Dans certains cas, comme la discussion de la chambre noire, la réfraction de la lumière dans deux sphères transparentes et les tables de l'indice de réfraction de la lumière, ce physicien a élargi les théories d'Ibn Hisham. Kamaluddin Farsi a écrit sur la nature de la lumière dans ce livre. La lumière qui sort d'un objet lumineux est originellement faite de chaleur et de feu. Parce que si la lumière du soleil se réfléchit sur un miroir concave, elle se rassemblera en un point, et chaque fois qu'il y aura un objet combustible à ce point, il le brûlera. Le célèbre physicien James Clerk Maxwell a publié sa théorie appelée électromagnétique en 1860 après les expériences suivantes. La lumière est une vibration de vecteurs de champ électrique et de champ magnétique perpendiculaires entre eux et tous deux perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Un tel état crée de la lumière naturelle. Mais Kamaluddin Farsi dit avant Maxwell, lorsque la lumière tombe obliquement sur la surface polytransparente, une partie de la lumière réfléchie est polarisée dans le plan d'incidence et une partie égale de la lumière transmise est polarisée dans le plan opposé. Kamaluddin Farsi est un scientifique qui a utilisé pour la première fois les lois et les théorèmes de la géométrie dans l'optique pour prouver ses théories. Ce travail était très nouveau à cette époque, avait une grande valeur dans les activités scientifiques. De plus, une autre de ses activités appréciées consistait à construire une chambre noire dans laquelle pénétraient les rayons de la lumière par une petite ouverture. Il a été le premier à expliquer la théorie des erreurs de réfraction et à suggérer l'utilisation de différentes lentilles pour améliorer ces erreurs. Cette théorie intéressante et unique a conduit à l'utilisation de lentilles dans les principes de la photographie et la construction de microscopes et de télescopes au XIXe siècle. Mais le point important est que par le passé, la traduction latine du livre « La révision du traité d'optique d'Ibn Hisham » rédigé par Kamaluddin Farsi, comme de nombreux livres d'érudits iraniens, existait dans les bibliothèques européennes, mais le nom de l'auteur ne figurait pas sur la couverture du livre. Pour cette raison, certains occidentaux avaient délibérément prétendu que ses œuvres étaient son propriétaire. L'un des autres aspects importants à prendre en compte dans la révision du traité d'optique d'Ibn Hisham est l'étendue de la portée thématique de la science des paysages dans le livre de Farsi. Kamaluddin a nécessairement abordé des sujets tels que la lumière, l'ombre, l'obscurité, la visibilité et l'invisibilité et les rayons correspondants dans son livre. Mais son acquis le plus important concerne le sujet de l'arc-en-ciel, dans le contexte duquel il a provoqué une évolution majeure, non seulement dans le concept de la tradition aristotélicienne, mais aussi dans l'adoption de la méthode expérimentale. Par ailleurs, il a changé l'idée de la fonction du nuage en tant qu'un miroir concave en une sphère de verre contenant de l'eau et un échantillon de gouttes de pluie dans le ciel. Certains chercheurs pensent que Kamaluddin Farsi a été inspiré par Rotbeddin Shirazi dans ses idées sur l'arc-en-ciel, mais on ne peut pas nier ses innovations dans ce domaine. Il est intéressant de savoir que les opinions de Kamaluddin Farsi et des scientifiques avant lui comme Avicenne et Rotbeddin Shirazi sur l'arc-en-ciel ont été comparées à plusieurs reprises avec les hypothèses de Thierry de Freiberg, un scientifique allemand dans ce domaine.
Thank you.